Tribunal de grande instance de Lyon. 16e chambre correctionnelle. Fin 2013. Faites entrer l'accusé. 18 mois après l'impact qui a bouleversé nos vies, nous nous retrouvons assis sur les bancs du tribunal de Lyon. Mon père, ma sœur, les sœurs de ma mère, ma grand-mère et moi. La veille, notre avocat a croqué un schéma pour nous expliquer la disposition de la salle où seraient assis le président, les assesseurs, la greffière et les familles. Je vous préviens, ce sera difficile. Il a listé l'ordre de passage et raturé une feuille de flèches qui vont du procureur vers le banc des mises en cause. Lui, il va charger les accusés, vous comprenez? On verra si le juge suit les réquisitions. De ce procès, je n'ai conservé que peu de souvenirs précis. Un de ces moments importants de la vie où l'enregistreur mnémonique se met inexplicablement en veille. Reste le regret de ne pas avoir parlé. Quelques dialogues que je peux retranscrire avec l'aide de notes d'audience et des sensations, comme la touffeur électrique de cette petite salle, la promiscuité entre ma famille, regroupée sur deux rangées de bancs, et ce qu'on devinait être celle de Saïd. Ses complices, Hamza et Youssef, ceux qui avaient fui avec la moto, étaient assis devant nous. Saïd entra dans le box tête baissée et poings menottés, encadré par deux policiers. Quelques heures plus tôt, il avait été extrait de sa cellule à la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, où il était enfermé depuis 5 mois et où il retournerait à l'issue de l'audience. La maison d'arrêt venait d'être pointée du doigt par l'Observatoire international des prisons et par le contrôleur général des lieux de privation de liberté comme particulièrement dure envers les détenus. À l'arrivée de Saïd, mon père se pencha en avant pour mieux le voir et décrypter le visage de celui qui avait tué sa femme. C'était volatiliser l'indulgence amusée que les honnêtes gens portent aux voyous quand ils bénéficient du luxe de la distance. Pendant tout le procès, Saïd resta voûté, comme accablé par une scène trop lourde pour ses chétives épaules. La maigreur de ses bras avait d'ailleurs été relevée par plusieurs témoins de la collision, comme une incongruité qui valait la peine d'être notée. Presque un élément à décharge. Il portait des baskets et un survêtement à manches longues. Son regard vide, absent, masquait son désarroi et sa honte d'être là, scruté par les siens et par ces inconnus qu'il avait brisés pour toujours. Ses cheveux étaient coupés très courts et son phrasé avait cette intonation qui classe impitoyablement dans la mauvaise case auprès des recruteurs. Ce Saïd, je l'avais croisé des dizaines de fois. Il ressemblait à tous ces jeunes types qui zonent dans le quartier de la Guillotière, à la gare du Nord, à la sortie d'une gare de province. Il avait la gueule de ceux qui finissent toujours chez le CPE. C'est lui qui m'avait collé une droite pour me voler mon téléphone dans une rue de Paris quand j'étais étudiant. C'est lui qui tenait entre ses doigts une fin de joint et une bouteille d'oasis par le goulot, agitée au rythme d'une enceinte portative, provoquant l'exaspération mutique des passants. C'est lui, surtout, qui servait d'épouvantail et de tiroir-caisse idéologique à toute une partie de la classe politique. Qu'est-ce que je fais dans une salle d'audience à 3 mètres d'un garçon pareil? Je le dévisageais quelques secondes, la gorge saisie pour la première fois par la serre du réel. Saïd a quasiment le même âge que moi. Je me souviens m'être demandé, quand mon regard tentait de décoder la moindre expression de son visage, et d'enregistrer chaque bribe d'information que livrait son corps, à quel moment nos parcours, démarrés à capital cognitif égal, avaient divergé à cause des déterminismes et des circonstances. Tôt, à en croire la lecture de son historique par le président du tribunal. Condamné une première fois à l'âge de 17 ans à 1 mois avec sursis pour offre ou cession de stupéfiants. Puis soumis l'année suivante à un stage de citoyenneté pour vol aggravé, avant de recevoir une admonestation pour violence en réunion, suivie d'une ITT n'excédant pas 8 jours. Ce nouveau passage devant la justice était la dernière itération judiciaire, la plus grave, d'une jeune vie brûlée, dilapidée en combines foireuses, en petit trafic et vaines rêveries de destin à la Scarface. Contrairement à une image répandue, la colère n'est pas un feu qui consume. C'est un liquide qui s'infiltre insidieusement dans nos interstices psychiques pour remplir notre cave, y moisir les fondations et corrompre notre édifice entier en chamboulant tout ce qu'on y avait soigneusement déposé. Nos repères, nos bornes idéologiques, les quelques idées directrices que l'on se fait sur la vie. Ce procès, c'était aussi le procès de mes croyances et des valeurs que m'avait transmises ma mère. À partir du moment où je dévisageais enfin le garçon qui l'avait tué, plus rien ne serait désormais comme avant. Parce que cet accident venait tout brouiller. Ce n'était pas juste une pierre jetée dans le jardin de mon éducation, par laquelle mes parents s'étaient escrimés à me transmettre leurs valeurs. C'était un éboulement de terrain dont j'observais les dégâts, ébahi depuis un hélicoptère de secours. Un test d'humanité dans les conditions du réel, en somme, qui donnait tout son sens au terme « épreuve ». Une épreuve qui consistait essentiellement à garder l'esprit aussi ouvert et lucide que possible. Le président du tribunal. Monsieur, vous êtes mis en examen pour homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes. Cela fait suite à une mise en examen pour blessure involontaire ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois avec deux circonstances aggravantes, à savoir le manquement délibéré à une obligation de sécurité consistant dans le fait d'avoir roulé sur la roue arrière et l'usage de stupéfiants. L'Institut national de police scientifique, basé à Écully, avait évalué précisément sa concentration sanguine en delta-9 tétrahydrocannabinol, le principal composé psychoactif du cannabis, à 1,4 nanogrammes par millilitre, soit une dose suffisamment élevée pour constituer la circonstance aggravante. Saïd était mal barré. Mais il s'était offert les services d'Alfred Cordier, l'avocat des causes perdues, qui avait préparé sa défense en 3 axes. Petit 1, son client reconnaissait sa responsabilité dans le drame. Petit 2, il était très jeune, 18 ans au moment de la collision, et avait perdu son frère 1 an auparavant dans des circonstances tragiques. Petit 3, concernant Youssef, dont il assurait aussi la défense, accusé d'avoir fui avec la moto, l'avocat soulignait que les déclarations de plusieurs témoins étaient fortement imprégnées de leur subjectivité. Ce n'était pas agréable à entendre, mais c'était bien vu. C'est vrai que les témoignages des passants étaient parfois contradictoires. Mais Alfred Cordier fit preuve d'une extrême délicatesse dans la défense de Saïd. Au prétoire, il ne perdit jamais de vue que ma famille était présente, à quelques mètres de lui, et qu'un mot maladroit de sa part pouvait remuer le couteau que son client avait planté dans nos cœurs. « La dignité fait robe », s'était-on dit à la sortie. Quelques années plus tard, je suis revenu à Lyon en reportage pour couvrir le procès d'un prêtre accusé de viol sur mineur. À l'audience, j'ai découvert qu'Alfred Cordier était son avocat, et c'était la première fois que je le revoyais depuis qu'il avait défendu Saïd. L'affaire l'avait propulsé devant les projecteurs et sous une énorme pression médiatique. Sa plaidoirie a duré 1 heure et demie, sans notes, et j'ai retrouvé le même talent oratoire qu'il avait déployé 7 ans plus tôt. Tout l'inverse de notre avocat à nous, pompeux et grandiloquent, mal choisi par mon père, qui avait commis la fatale erreur de qualifier ma mère d'architecte d'intérieur dans le panégyrique maladroit qu'il avait dressé d'elle. Toute sa vie, ma mère avait sèchement taclé ceux, souvent des hommes, qui lui répondaient « d'intérieur » quand elle se présentait en tant qu'architecte. Non seulement le machisme la poursuivait outre-tombe, mais jusque dans cette salle d'audience où justice était censée lui être rendue. Ça revenait à cracher dans son urne. Mais sur le moment, ça nous avait fait sourire et nous l'avait rendue étrangement présente. On se l'était imaginé pendant quelques secondes à côté de nous, à se prendre la tête de consternation entre les mains. Quand ce fut son tour de parler, Saïd se leva sous le regard encourageant de son avocat et bredouilla quelques mots, répétant plusieurs fois qu'il ne l'avait pas fait exprès, que c'était un accident, qu'il reconnaissait avoir eu un comportement à risque et qu'il tenait à présenter ses excuses à la famille dans un mélange de contrition sincère et d'exécution des recommandations de son avocat. Il poursuivit. « J'étais pas conscient de la puissance. Je croyais que j'avais le droit. La roue a dérapé et la moto est partie. Si j'avais pu, je l'aurais évité. Cette déclaration m'interpella. Si j'avais pu, je l'aurais évité. Les minutes qui précèdent la collision racontent tout l'inverse. Il ne fait aucun doute que Saïd n'a jamais voulu tuer. Mais lorsque l'on réunit sciemment toutes les conditions qui risquent de provoquer la mort de quelqu'un, fumer du cannabis, rouler en roue arrière, sans permis, à une vitesse excessive, dans une rue où l'accident est difficilement évitable, peut-on encore se retrancher derrière le concept d'homicide involontaire? En 2022, je lisais dans la presse l'histoire du médiatique cuisinier Yannick Aleno, dont le fils fut tué en plein Paris par un chauffard ivre, défoncé au cannabis et roulant sans permis au volant d'une voiture volée. L'homme fut condamné à 7 ans de prison en 2024. Au lendemain de l'accident, Yannick Aleno, effondré, avait pris la parole publiquement et préconisé de changer les termes de l'infraction. L'adjectif « involontaire » suggérant selon lui que la mort causée n'était pas si grave. Pour rendre sa juste mesure au drame qui lui était arrivé, il demandait une nouvelle appellation, celle d'homicide routier, arguant que l'on choisissait de se droguer ou de boire avant de prendre le volant sans permis et ainsi de mettre en danger la vie d'autrui. L'année suivante, en juillet 2023, le gouvernement suivait ses recommandations et proposait la création d'un délit d'homicide routier pour remplacer celui d'homicide involontaire avec circonstances aggravantes. C'est une modification sémantique qui ne change rien aux sanctions pénales et qui vise surtout à rendre plus supportable aux familles la qualification de l'accident. Je manque d'impartialité pour juger s'il s'agit d'un progrès ou non. C'est en tout cas une évolution de la perception de la responsabilité que l'on peut élargir à tout acte involontaire. Est-il suffisant de ne pas avoir souhaité une conséquence pour la qualifier d'involontaire? Quel poids pèse l'intention initiale lorsque l'on prend la décision de réunir toutes les conditions qui risquent de tuer? Suffit-il de ne pas avoir voulu tuer pour atténuer sa responsabilité? Cette qualification d'homicide routier n'existait pas à l'époque du procès de Saïd, pas plus que les débats afférents sur le caractère involontaire de la collision. Au procès, il s'agissait surtout de déterminer s'il était apte à retourner vivre en société sans mettre en danger la vie des autres. L'étude de son comportement après la collision fut de ce point de vue sidérante. À sa sortie de l'hôpital, Saïd était resté 4 mois en détention préventive dans une maison d'arrêt de la région, avant d'être libéré sous contrôle judiciaire. Ce contrôle consistait en 2 interdictions simples. Celle d'entrer en contact avec les autres mis en examen et celle de fréquenter le 1er arrondissement de Lyon. Mais alors, chercha à comprendre le président, vous qui êtes connu comme le loup blanc par les policiers du 1er arrondissement, pourquoi vous êtes-vous rendu plus d'une 10aine de fois dans le quartier pendant votre contrôle judiciaire? Pourquoi avoir pris le risque de continuer vos virées nocturnes avec les amis que vous aviez précisément interdiction d'approcher? Le procès révéla que Saïd avait été repéré une première fois dans le quartier quelques jours seulement après sa remise en liberté. Le magistrat instructeur en charge de son cas avait envoyé 2 policiers au domicile familial pour le faire comparaître, mais malgré sa promesse d'honorer le rendez-vous, Saïd n'était jamais venu, et les 2 officiers avaient patienté pendant 2 heures dans le salon en prenant le thé avec les parents. 9 mois après sa libération provisoire, alors que Saïd continuait de traîner sur les pentes avec Hamza et Youssef et d'y multiplier les allers-retours, le juge des libertés révoquait son contrôle judiciaire et le renvoyait en détention provisoire. « Alors, pourquoi êtes-vous retourné dans le 1er arrondissement ?» insista le juge. « Je savais que j'avais pas le droit, mais j'ai eu un trou de mémoire, » tenta-t-il. Ma curiosité envers l'énigme que représentait Saïd se renforça à cet instant précis. À quel moment construit-on un tel rapport à la loi et à l'autorité? L'argument fallacieux de la prédisposition culturelle ne colle pas. Les 2 sœurs de Saïd mènent des vies parfaitement stables, et ses parents ont toujours été respectueux de la loi. L'argument économique ne tient pas non plus. Sa famille était modeste, mais loin d'être pauvre, et il est spécieux de considérer que les pauvres violeraient davantage la loi que les autres. Admettons que les imprécations concernant les règles de la vie en société ne nous atteignent pas, et que la police ne nous effraie pas une seconde. Reste l'intérêt personnel et égoïste. Si je retourne dans le quartier, je retourne en prison. Il le savait. Pourquoi s'y est-il rendu plus d'une dizaine de fois? Saïd eut du mal à se justifier, invoquant la brièveté de ses passages dans l'arrondissement et la nécessité quasi vitale de voir ses amis. 6 mois avant le procès, lors du débat contradictoire devant la juge des libertés et de la détention, à l'issue duquel il allait être remis en détention, Saïd avait expliqué qu'il était allé voir des amis dans le quartier pour boire un coup. Ses propos avaient été rapportés ainsi. Pour répondre à votre question, si j'étais à la place de la famille de la victime, j'aurais un sentiment de haine si je voyais l'auteur de l'accident dans le quartier. Je pense que la famille va être en colère quand elle va apprendre que je suis allé dans le premier arrondissement. Avant de se rasseoir dans son box, Saïd insista une dernière fois. Je regrette énormément d'avoir fait ça. Ça m'a coûté la prison. J'ai une grosse pensée pour la famille de la victime. Je leur souhaite malgré tout beaucoup de bonheur. Le procès se concentra ensuite sur Hamza et Youssef, les deux amis d'enfance de Saïd, qui avaient relevé la moto et fui la scène. Eux aussi, gamins des pentes de la Croix-Rousse, et dotés d'un casier judiciaire précoce. Hamza avait arraché la plaque d'immatriculation de la moto et menacé Lionel, le gérant du sex-shop, pour faciliter la fuite de Youssef. Il comparaissait libre, mais était mis en examen pour modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Je me souviens précisément de la manière dont il claudiqua jusqu'à la barre avec une jambe dans le plâtre, appuyée sur une béquille. Première question du président. Vous vous êtes fait ça comment?
Je me suis pris une balle, monsieur. Je suis en rééducation.
Une balle?
Oui, une balle. On m'a tiré dessus.
Remous dans la salle.
Et pourquoi est-ce qu'on vous a tiré dessus?
Franchement, je sais pas, monsieur. Je comprends pas, vraiment.
On ne sut jamais comment Hamza s'était pris cette balle, qui, à l'en croire, était tombée du ciel pour finir sa course dans son fémur. La fausse naïveté des accusés exaspérait l'avocat général, qui fut bien forcé de les sermonner, reprenant un réquisitoire identique à ceux qu'il devait avoir prononcé par dizaines dans des affaires similaires, dénonçant l'inconséquence et la lâcheté de ces jeunes qui leur avaient fait perdre tout respect de la vie humaine. Le procureur chargea Hamza sur la non-assistance à personne en danger. Plutôt que de porter secours à une femme en train de mourir, il s'était précipité pour dissimuler la moto. Dans un phrasé hésitant, Hamza tenta une défense audacieuse.
Je conteste un peu les faits. J'ai juste aidé une personne à soulever une moto pour faciliter le passage des pompiers.
Le parcours de Hamza, 26 ans au moment du procès, était similaire à celui qu'allait suivre Saïd, emblématique des vies brisées des gamins de la Croix-Rousse, où souvent l'échec scolaire, les mauvaises fréquentations et l'addiction au cannabis déterminent le reste. Hamza vivait chez ses parents sans revenu et avait démarré une formation en mécanique après avoir enchaîné des intérims dans le bâtiment et un BEP d'électricien qu'il avait abandonné au bout de 2 ans. Youssef, lui, avait 21 ans. Il avait arrêté les études au collège et n'avait suivi aucune formation, s'occupant par quelques intérims dans la manutention. Il comparaissait libre également, mais il avait déjà été condamné 3 fois pour usage et cession de stupéfiants, ainsi que violence en réunion. Sa première condamnation lui avait imposé un travail d'intérêt général qu'il n'avait jamais honoré.
« Je voulais pas le faire », précisait-il,
et dont le manquement l'avait évidemment envoyé en prison.
« J'avoue, j'y avais pas pensé », concluait-il.
À la barre, Youssef plaida qu'il avait cru bien faire en repartant avec la moto quelques secondes après la collision.
« J'ai voulu rendre service à Saïd, c'est tout, parce que je savais bien qu'il n'avait pas le droit de conduire ça. »
Il y avait quelque chose d'exaspérant et de pathétique à voir la fausse nonchalance de ces hommes, dont les visages mimaient l'ahurissement, leurs mains levées en l'air. À les entendre au tribunal et à les observer dans leur environnement au bas des pentes, il semblait en aller pour eux de la moto comme de la barre de shit. Il fallait impérativement échapper au réel et à son gris. Pour ça, n'importe quel opium faisait l'affaire, parce qu'on savait bien qu'on n'aurait jamais la vie dont on rêvait. Et quand cette lucidité fulgure, elle est tellement odieuse qu'il faut absolument la fuir par le moindre sédatif ou comportement ordalique qui nous passe sous la main. La déclinaison la plus inoffensive est la vitrine que permettent les réseaux sociaux, où l'on peut se rêver à la tête d'une fortune en prenant la pose devant une Audi RS5 dont on s'imagine propriétaire, où l'on fait des têtes de dur en sachant pertinemment que tout ça ne dupe personne. Et l'on retombe souvent dans une salle de correctionnel à jurer que c'est la dernière fois et que désormais on fera attention. Le tribunal condamna Hamza à 6 mois de prison avec sursis, et Youssef à 8 mois, et ça n'eut pas l'air de les impressionner plus que ça. Saïd fut condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes avec mandat de dépôt immédiat, ce qui signifie que les policiers le renvoyèrent directement en prison à la fin du procès. À sa condamnation, fut soustraite l'année et demie passée en détention préventive. Saïd n'est donc resté en prison qu'1 an et 3 mois après le procès. Je ne suis pas qualifié pour juger si cette peine est suffisante ou pas, mais c'était le quantum habituel à l'époque, et notre avocat avait l'air satisfait. Quand les proches d'une personne tuée sortent d'un procès, on les entend souvent prononcer des phrases comme « Nous, on a pris perpète, et lui, il a quoi ?» C'est une phrase qui n'a pas de sens. Heureusement que la justice n'est pas rendue par les victimes et que les sentences sont individualisées. Et je suppose que la peine de Saïd a été pensée en tenant compte de l'état des prisons et de leur capacité à produire de la récidive. Les dernières minutes, avant le coup de marteau final, furent consacrées au chiffrage du préjudice. Car la mort d'un proche est chiffrable. Sa valeur est même prévue par un barème selon lequel la perte d'une épouse rapporte davantage que la perte d'une mère ou d'une fille. Saïd fut condamné à payer 32 500 euros à mon père et 22 500 euros chacun à ma sœur et moi. Les parents de ma mère, qui étaient aussi partie civile, reçurent chacun 20 500 euros au titre du préjudice d'avoir perdu leur fille. S'ajoutait à cela le remboursement des frais de déplacement, une ligne atrocement dérisoire qui, dans mon cas, s'élevait par exemple à 600 euros, sans doute au titre de mon billet Bombay-Paris. Des sommes que Saïd n'était évidemment pas en mesure de payer et qui furent réglées par la Mutuelle des Motards, la compagnie qui assurait la moto au moment de la collision. Pendant plusieurs années après le procès, la Mutuelle se retournerait contre Saïd afin qu'il la rembourse. Le chiffrage de ce préjudice avait été évalué à la louche. Mais le montant des frais d'obsèques que Saïd devait à mon père, lui, était très précis car sur facture. 3 867 euros et 13 centimes. Mes souvenirs concernant la fin des débats sont flous. Mais une scène me revient parfaitement. Lors d'une suspension d'audience, je vais aux toilettes dans le hall du tribunal. La porte poussée, je tombe sur Hamza et Youssef devant les lavabos. Ils ont ouvert un Velux, sont en train de fumer un joint et sursaute à peine à mon entrée. L'un d'eux murmure un « scuse » pour le joint, j'imagine. Quand je lui en parlais, l'avocat Alfred Cordier eut cette remarque. « Là, on est dans un monde qui est un monde un peu à part. Certains sont allés tellement loin qu'ils ne sont plus impressionnés par les procès. Lui-même était incapable de comprendre la dérive de cette bande. Quand vous naissez à Vaux-en-Velin, vous baignez dans un climat qui prédispose. La Croix-Rousse, c'est pas ça. C'est un quartier avec beaucoup de mixité, où chacun est au contact d'un monde qui n'est pas le sien. Il y en a pour qui ça marche. Pour Saïd, ça n'a pas marché. Et pourquoi ? Et pourquoi ?